Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part aux grands titres du jour en ce mercredi 20 juillet. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question d'une techno-féministe à l'assaut du VIH, de la nouvelle allocation familiale, du changement de valeur générationnelle et, bien sûr, mesdames et messieurs, de la bonne nouvelle du jour. Débutons par cet article qui est publié sur la plateforme du Devoir et qui s'intitule « Techno-féministe à l'assaut du VIH ». Et oui, voici ce que nous dit le Devoir. Mala Talbot, camerounaise de 27 ans, a décidé de s'attaquer à la prévention du VIH chez les jeunes avec pour arme la technologie. Elle s'est rendue à Durban pour lancer son application Hindolo 360, ou en français, l'amour en 360 degrés, qui se veut un outil pour contrôler sainement sa vie émotionnelle et sexuelle. Eh bien, mesdames et messieurs, vous allez voir, lorsque vous allez lire l'intégrale de cet article, qu'il s'agit d'une motivation très intéressante de la part de Mala Talbot, parce qu'elle est consciente qu'il y a beaucoup de cas de VIH, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes avant l'âge de 18 ans au Cameroun. C'est pas n'importe qui, cette femme-là, puisqu'en 2015, selon le Devoir, elle s'inclinait devant la reine d'Angleterre qui avait choisi de la faire entrer dans son club sélect de jeunes leaders du Commonwealth. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'elle va mobiliser les gens, elle va mobiliser spécialement les jeunes pour leur parler de sexualité. Le Devoir nous dit, à peine plus d'un an plus tard, donc un an après avoir rencontré la reine d'Angleterre, elle vient de passer l'après-midi à parler de plaisir sexuel devant un public averti. Écoutez bien ce qui suit. Et c'est ça, moi, qui m'attriste, parce que lorsque je lisais cet article-là, je trouvais ça très positif, très prévoyant. C'est important qu'on puisse quand même éduquer les jeunes à être responsables dans leur sexualité en tant que citoyens. Mais là où est-ce que j'ai mis le pied sur le frein, c'est lorsque j'ai lu cette phrase. Et puisque l'abstinence ne sera jamais une solution, et c'est entre guillemets, donc, ça vient présumément de Mala Talbot, eh bien l'article nous dit « La jeune féministe prône une sexualité joyeuse et épanouie, éclairée par les lanternes des cellulaires s'il le faut. » Parce qu'elle utilise la technologie, elle utilise des applications, elle utilise des logiciels d'information. Mais lorsqu'elle dit « l'abstinence ne sera jamais une solution », écoutez, mesdames et messieurs, pourquoi imposer une philosophie? On reprochait, par exemple, au Québec, à l'Église catholique, avant la Révolution tranquille, de s'ingérer dans la chambre à coucher des gens. On fait exactement la même chose. Si des gens ont envie de s'abstenir pour un certain temps, dans un contexte, dans une circonstance, pour des motifs de conscience, pour des motifs de salubrité, pour différents motifs. S'il y a des gens qui veulent pratiquer l'abstinence, c'est leur choix. Est-ce qu'on doit imposer l'abstinence à toute la population? Bien sûr que non. C'est un choix personnel. C'est une conviction personnelle. Ce n'est pas un gouvernement d'établir ou de décider si on doit être abstinent. Mais est-ce qu'on doit interdire l'abstinence? Jamais non plus. Alors c'est ça, mesdames et messieurs, moi, qui me dérange, c'est qu'il y a souvent de bons coups qui sont faits, de bons coups qui viennent en aide à la société, mais ces bons coups-là sont teintés d'une philosophie, d'une idéologie, et non pas pour laisser les gens libres de pratiquer leur sexualité en fonction de leurs propres valeurs et leurs croyances. Évidemment, c'est important, lorsqu'on pratique la sexualité, de le vivre à l'intérieur d'un cadre qui est sain. Moi, je crois que le cadre qui est sain, c'est le mariage. Ça demeure ma conviction personnelle. Mais quoi qu'il en soit, normalement, une sexualité va aboutir, tôt ou tard, pour ceux et celles qui le peuvent et le désirent, d'enfanter. Et lorsqu'on a des enfants, eh bien, ce sont des responsabilités. Et je crois qu'il y a plusieurs parents qui vont être contents que l'État leur vienne en aide avec un support qui s'appelle l'AS. Oui, l'allocation canadienne pour les enfants. Le Devoir nous dit, dans un article intitulé « La nouvelle allocation pour enfants réduira la pauvreté infantile, croit Ottawa ». Et oui, voici ce que nous dit le Devoir à cet effet. Le ministre fédéral des Familles, des Enfants et du Développement social soutient que la nouvelle allocation canadienne pour les enfants, l'ACE, permettra de réduire le taux de pauvreté infantile à des niveaux jamais vus au pays depuis des générations. À la veille du versement du tout premier chèque d'allocation canadienne pour les enfants, le ministre Jean-Yves Duclos croit que le taux de pauvreté chez les enfants devrait passer d'ici un an de 11,2 à 6,7 % au Canada, une baisse de 40 %. Ça, mesdames et messieurs, j'aimerais savoir d'où il tient ces statistiques, parce qu'il me semble que ça doit être difficile à établir, mais bon. Mais tant mieux si l'allocation canadienne pour les enfants va contribuer à baisser la pauvreté. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Là où est-ce que je suis un peu mal à l'aise, c'est que le gouvernement Trudeau le fait non pas parce qu'on a bien géré notre nation et on a des surplus, mais il le fait en allant emprunter encore de l'argent. On estime que le déficit cette année va être de 32 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme, mesdames et messieurs. Et moi, je suis complètement content qu'il y ait cette mesure. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est sur le dos des générations à venir et non pas sur la génération présente. Et la génération à venir a plusieurs défis, spécialement sur le plan des valeurs. Parce que la génération à venir a une autre perspective de la vie, a une autre définition des termes. Dans un article qui s'intitule « La génération qui ne voulait plus posséder », eh bien, on voit que la génération Z, ceux qui sont nés depuis 1995, eh bien, ont une autre perception des choses et même le vocabulaire prend pour eux un tout autre sens que les autres générations qui les entourent. Et ce qu'on apprend dans cet article, c'est que 63 % des jeunes de 20 à 29 ans ayant répondu au sondage du temps, lancé sur Internet il y a quelques semaines, s'informe de l'actualité principalement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est intéressant. 63 % des 20 à 29 ans s'informent principalement sur les réseaux sociaux quand ils veulent savoir ce qui se passe dans l'actualité. Donc, ce n'est plus les journaux papier. C'est même pas la plateforme électronique du journal papier. C'est via les réseaux sociaux. Chez les 30-39 ans, ils sont 46 %. Chez les 40-49 ans, ils sont 39 % à s'informer sur les réseaux sociaux. Et par exemple, pour la génération Z, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cet article, on nous dit que la liberté pour eux n'est plus de partir en voiture, mais de s'évader à l'aide du numérique. Nous, la génération X, quand on avait le goût de changement, on avait le goût de s'évader, on prenait notre voiture, puis on s'en allait aux États-Unis, on s'en allait dans les cantons de l'Est, on s'en allait dans les Laurentides, on s'en allait un peu partout. Mais savez-vous quoi? Pour eux, ils s'évadent à l'aide d'un téléphone cellulaire ou d'une tablette. Ce qu'on nous dit qui est intéressant également dans cet article, c'est que la génération X avait besoin de se rassurer en possédant, tandis que la génération Z tient la collaboration pour maître mot et place le partage et la solidarité au sommet de ses valeurs. Ce sont des gens qui valorisent l'économie du partage. Donc, les couchsurfing, ça fait partie de leurs mœurs. Donc, ils ont une pensée différente. Et pour les rejoindre, il faut comprendre leur pensée. Il faut comprendre leurs valeurs. Il faut comprendre le sens qu'il donne aux choses. C'est un article intéressant, je vous invite à le lire. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous le savez, on termine toujours les grands titres du jour avec une bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle du jour, mesdames et messieurs, c'est l'autobus du futur. Eh oui, l'autobus du futur signé Charles Bombardier. Vous savez quoi? C'est un autobus électrique qui serait muni de panneaux solaires pour alimenter le système de communication. ce moyen de transport, ce moyen de transport public, pourrait nous rendre moins dépendants du pétrole. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Je vous invite donc à lire cet article qu'on retrouve sur la plateforme du Journal de Montréal et qui est accessible sur Décentrer le discours. Et oui, mesdames et messieurs. Je vous invite également à être des nôtres demain. Savez-vous pourquoi? Parce que demain, nous allons avoir une entrevue, une courte entrevue, avec le directeur général de l'Association d'Églises baptistes évangéliques au Québec. Et il va nous parler d'une situation délicate. À titre de directeur général et au nom de l'Association d'Églises baptistes évangéliques au Québec, il a offert ses regrets à de présumées victimes de mauvais traitements. Je vous invite donc à s'intoniser le 92,7 FM demain dès 16h pour entendre cette entrevue. Maintenant, puisque le temps file, eh bien, avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que les liens qui sont reliés aux articles cités dans le cadre de cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, bonne lecture, bonne réflexion et surtout, mesdames et messieurs, bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.